Je voudrais remercier tous ceux qui prient, qui ont prié pour le prédicateur de ce matin. Je réfléchissais à ça. On ne peut apporter que ce que Dieu nous a donné. Voilà. Et si j'arrive, si nous arrivons, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui apportent la parole dans ce lieu et ailleurs, à apporter ce que Dieu nous a donné, à ce moment-là, l'Église, elle aura une dimension tout autre. Nous ne voulons pas écouter des discours, des études, un cours. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, qui est important. Et je le vois quand je prépare, c'est compliqué, vous savez, c'est compliqué de préparer, pas de dire quelque chose, peut-être que de dire quelque chose, c'est peut-être pas si dur que ça pour certains, en tous les cas, mais de dire juste ce que Dieu veut que nous disions. Voilà. Et puis pas de ne pas broder, de ne pas apporter, ça c'est compliqué. Alors priez, merci pour ceux qui ont prié. Et on va voir si vous avez eu la foi. On va voir si vous avez eu la foi. Allez, j'ai mis un titre. Je ne sais pas si ça va apparaître. Ah oui, aurais-je choisi Judas ? Vous parlez d'un titre, vous, hein ? Est-ce que j'aurais choisi Judas ? Voilà. On va lire tout de suite le même passage. C'est dans Jean, au chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. La question c'est, aurions-nous choisi Judas ? C'est étonnant, hein, ce choix de Jésus. Vous êtes conscient que ça, ce n'est pas écrit complètement à la fin des évangiles, que c'est écrit au début plutôt, et que personne ne savait que Judas allait trahir Jésus. Autrement dit, Jésus savait que Judas allait le trahir. Il connaissait ces choses, il le savait. Il savait pourquoi il venait, ce n'est pas le sujet de la prédication, mais il savait que Judas allait le trahir. Et malgré tout, Jésus a choisi Judas. Il lui tendra ce fameux morceau de pain trempé. Il lui tendra ça, où allez-vous ? Jésus a choisi Judas. Nous, on prie, on chante, on souhaite, on désire ressembler à Jésus. C'est vrai, te ressembler Jésus, on le chante. Et c'est vrai, c'est notre aspiration de ressembler à Jésus. Dans ce qu'il a fait, on aimerait bien faire bien les prodiges qu'il a fait. On aimerait bien avoir l'efficacité qu'il a eue. On aimerait avoir ces choses. Mais il y a aussi lui ressembler dans les choix qu'il a eus. Voyez-vous ? Et Jésus a choisi Judas. Et moi, je me pose la question, est-ce que j'aurais choisi Judas, sachant tout le mal qu'il me ferait après ? Je vous laisse répondre, pas à haute voix. Mais juste vous posez la question. Voyez-vous, choisir Judas, c'était un choix spirituel. C'était un choix qui plaçait l'œuvre de Dieu au-dessus. La tendance naturelle dans nos choix, c'est de choisir quelque chose qui va nous être avantageux, personnel. J'ouvre une parenthèse. Un jour, on mangeait au travail, et c'était une époque où on nous servait, vous savez, sur des plats, on nous apportait des plats comme ça, et puis tout le monde se sert, et à la fin, il reste deux parts, une grosse et une petite. Vous avez déjà compris le problème. Une grosse part et une petite. Et bien sûr, mon collègue, au lieu de se servir, tend le plat à son collègue. Voilà. Mais le collègue, au lieu de prendre la petite, il prend la grosse. Et l'autre, il ne s'attendait pas. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Et puis l'autre, il a été un peu... Il dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi ? Il dit, moi, j'aurais choisi la petite. T'inquiète pas, tu l'as. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que les choix, nous faisons des choix qui nous avantagent. Des choix qui nous avantagent. Mais Jésus, lui, n'a pas fait des choix qui l'ont avantagé. il a fait des choix spirituels. Voyez-vous ? Et même au niveau de nos affaires, au niveau de nos décisions, nous devrions avoir cette vision-là, ne pas nous occuper directement de ce qui nous est avantageux, de nos affaires, mais avoir cette vision spirituelle. Alors on pourrait se poser la question, mais si je ne m'occupe pas de mes affaires, qui va s'en occuper ? Ça, c'est une bonne question, hein ? C'est une bonne question. J'ai trouvé un verset. Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque chose, à chaque jour, suffit sa peine. » Et là, Dieu s'engage. Vous savez, quand Dieu s'engage, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. Dieu s'engage à prendre soin de nous. Et là, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est de mettre d'abord l'œuvre de Dieu. D'abord l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu, lui, s'engage eh bien, à pourvoir, à nous aider, voyez-vous. Et ça sera beaucoup plus efficace que si moi, j'avais fait le choix. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si nous nous occupons de l'œuvre de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut faire attention. Je vais vous donner une parole de sagesse. C'est une parole de sagesse, mais ce n'est pas une révélation pour autant. Si je ne fais que prier et que je ne travaille pas, si je prie, je veux passer un concours, que je ne fais que prier, ben j'ai une parole de sagesse à vous annoncer, vous ne risquez pas de l'avoir, le concours. Parce que la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut travailler. Nous devons travailler, nous devons travailler. Et là, j'ai cité aussi un verset, que celui, c'est dans 2 Thessaloniciens 3:10, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Voyez-vous ? L'apôtre Paul est clair. Nous devons avoir un équilibre. Dieu nous dirige, mais il ne fait pas les choses à notre place. Pour Lazare, qui a roulé la pierre ? Et nous voyons dans la parole de Dieu bien des moments où Dieu a agi, mais pas à la place des hommes. Ce que les hommes pouvaient faire, ils l'ont fait. Mais à partir du moment, il faut bien le reconnaître, nous sommes limités, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, et là Dieu intervient. Est-ce que vous auriez pu ressusciter Lazare ? Mais Dieu pouvait. Dieu a ressuscité Lazare. Est-ce que vous auriez pu rouler cette fameuse pierre ? Sûrement. Ça dépendait de la force, parce qu'il semblerait que la pierre, mais en s'y mettant à deux ou à trois, on aurait réussi. C'était faisable. Les hommes l'ont fait. Il y a une part que nous devons faire. J'aimerais vous montrer dans la parole de Dieu quatre exemples rapides, très très rapides, d'hommes qui ont fait des choix, qui ont fait des choix qui n'ont pas, qui ont eu des conséquences terribles, mais qui n'ont pas été des choix spirituels. Et pourtant, c'était des hommes de Dieu. Je veux citer ces exemples pour vous dire que c'est difficile. Ce n'est pas facile de suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile. Voyez-vous, on dit ton jour n'est pas difficile, je ne sais pas, sûrement, mais de suivre Dieu, ce n'est pas facile parce que nous avons en nous ce désir eh bien, de faire aussi notre volonté, voyez-vous, et ce n'est pas facile d'avoir dans nous les choix de Dieu, de faire les choix de Dieu. Et on a des exemples dans la parole de Dieu, d'hommes qui ont aimé Dieu, d'hommes super, des super chrétiens et qui ont fait des choix à des moments qui n'ont pas été heureux. Et qui ont eu des conséquences. On va commencer par un homme que vous connaissez bien, c'est Samson. Samson. C'était un juge, Samson. Ça a été un juge. Voyez-vous, quand on regarde Juge, au chapitre 13, verset 24, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » Ça, c'est intéressant. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Ça me plaît, ça. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanédan, entre Tsoéa et Eshcaol. C'est là tout le drame de Samson. L'Esprit de l'Éternel a commencé à animer Samson. Mais Samson n'a pas été un homme rempli de l'Esprit. On voit, si vous étudiez sa vie, qu'à certains moments, Dieu l'a saisi. Mais que les décisions de Samson, ces décisions, voyez-vous, c'était loin d'être des décisions spirituelles. Quand on étudie la vie de Samson, on s'aperçoit que Samson a pris des décisions et que Dieu a été obligé de s'adapter, vous vous rendez compte, aux décisions de Samson. C'est quand même bizarre, ça. C'est très, très, très étonnant. Et même ses parents, les parents de Samson, ont été étonnés quand on lit dans Juges 14, « Samson descendit à Tima et il vit une femme parmi les filles des Philistins. » Ça, c'était le problème de Samson. « Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « Mais n'y a-t-il pas des femmes parmi les filles de tes frères et dans notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Voyez-vous, Samson, la décision de Samson, vous trouvez que c'est une décision spirituelle ? Samson, c'était un homme de Dieu. Et pourtant, il a pris cette décision. On ne va pas insister, ce n'est pas une prédication sur Samson, mais nous savons comment a fini Samson. Comment a fini Samson. Et je rappelle ça, c'est qu'on a l'impression, quand on lit la vie de Samson, que Samson n'a pas suivi Dieu, voyez-vous, mais que Dieu a, dans sa grâce, béni Samson à certains moments. On a l'impression que Dieu s'est adapté, voyez-vous. Là, il va profiter de cela pour se venger des Philistins. Enfin, je ne vous raconte pas l'histoire de Samson, vous pourrez la lire. Mais voyez-vous, c'est cette décision, une décision voilà, de Samson qui a entraîné, vous savez comment il a fini ? On lui a crevé les yeux, il est mort, ça a été une fin terrible. David et Bathsheba, ça quand même, il faut le faire. C'est incroyable. Dans 2 Samuel 11, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et il avait une bonne vue, hein ? Il avait une bonne vue, parce que je ne pense pas que la maison de David, elle était mitoyenne, ce n'était pas comme nos maisons, hein ? Je pense qu'il y avait de l'espace autour, que c'était une maison qui était assez grande. Eh bien, il a réussi à voir cette femme qui se baignait le soir. Hein, et il voit qu'elle est belle de figure. Il avait une bonne vue. Il avait une très, 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 très bonne vue, voyez-vous. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et voyez-vous, David va faire un mauvais choix. On n'est pas là non plus pour parler de David, juste sur le choix qu'il a fait. David n'était pas au bon endroit, il aurait dû être avec le peuple au combat. Il se retrouve chez lui, pourquoi ? Voyez-vous ? Ça, c'est un tas de questions, c'est une autre prédication. David voit cette femme, et là, il y a un mauvais choix. Et c'est difficile de résister à cela. Pourtant, il y a quelqu'un, un jeune qui a été confronté eh bien, au même problème. C'est Joseph. Joseph. Genèse 39, 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Là, Joseph a fait un bon choix, un choix spirituel. Et c'est intéressant, ça l'a conduit en prison. Ça l'a conduit en prison, voyez-vous. Vous savez, le plan de Dieu, ce n'est pas toujours facile à réaliser. Si à ce moment-là, on avait demandé à Joseph, mais qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Sûrement que Joseph aurait dit, mince quand même, j'ai bien agi par rapport à Dieu, j'ai bien agi. Tu vois, et je me retrouve en prison. Joseph est devenu le troisième en Égypte, voyez-vous. Il a eu un poste de responsable inimaginable. Dieu s'est servi de Joseph. Si Joseph était tombé là, jamais il aurait pu être un instrument de bénédiction pour Dieu. Voyez-vous, là, Joseph a fait un bon choix. Mais je voulais revenir sur David. David s'est laissé piéger. Il était au mauvais endroit. Il a mal réagi. Il a fait un mauvais choix. Et quand on regarde les conséquences dans sa vie, ce choix, il a des conséquences. Il a des conséquences après. L'apôtre Pierre, je vais lire le passage, c'est Galates 2.11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnages de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ça, c'est pas très glorieux, hein. Pierre, il avait compris, eh bien, que le salut, ce serait pour les païens. Il avait bien compris ça. Et donc, il ne voyait pas comme quelque chose de normal de manger avec des païens. Mais si c'est un juif, ne mangeait pas avec des incirconcis. Il ne se mélangeait pas. Mais Pierre, comprenant ces choses, il trouvait normal. Alors, il mangeait avec les incirconcis, avec les païens, avec les gens du dehors, les non-juifs, voilà, pour être clair, les non-juifs. Voilà. Et puis voilà qu'il y a des sommités du mouvement ADD qui arrivent. Voilà. Et Pierre se dit, ça ne va pas le faire. Du coup, il fait marche arrière, voyez-vous. Et là, Pierre va faire un mauvais choix. Voyez-vous, il va se retirer. Imaginez le témoignage de ces gens qui s'approchaient de Dieu, qui étaient avec Pierre, qui étaient contents, parce que Pierre leur parlait, ils étaient contents d'être avec lui. Et puis après, quand ses frères arrivent, Pierre se retire, il devait se dire, mais pourquoi il ne nous fréquente plus, pourquoi il ne devait pas comprendre. Voyez-vous, ça a des répercussions. Pierre a fait aussi un mauvais choix. Le dernier exemple de la parole de Dieu, c'est un exemple là qui est vraiment parlant. Voilà. C'est la prise de Jéricho. Josué envoya de Jéricho, la prise d'Aï, de Jéricho, des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Ça, c'est intéressant. Là, il y avait eu une grande victoire, la victoire de Jéricho. Quand ils sont entrés dans le pays d'Israël, Jéricho bloquait tout le passage. Il fallait vaincre Jéricho. C'était une forteresse imprenable. C'était impossible. C'était impossible à prendre. Sûrement qu'aujourd'hui, avec l'aviation, avec un tas de trucs, ça serait facile. Mais à l'époque, avec les moyens de l'époque, c'était quelque chose d'impossible. Et Dieu a béni. Donc là, le choix était bon. Là, Josué, tout s'est bien passé. Le choix est bon. Mais regardez les pièges. Je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile de faire dans nos vies les bons choix. Voilà, Jéricho, c'était extraordinaire. Dans l'enthousiasme, voyez-vous, il y avait une petite ville derrière. Une petite ville, aïe, voyez-vous. Et donc le peuple regarde et puis ils se disent, oh ben attends, Jéricho, waouh, aïe. Pff. Josué, t'embarrasse pas, tu vois, regarde. Juste une poignée d'hommes, voyez-vous, et puis ça suffira. Et le peuple a été vaincu. Aïe, voyez-vous, les décisions humaines, voyez-vous. J'aurais juste dire, c'est compliqué de prendre la bonne décision, la décision spirituelle, pas une décision sage aux yeux des hommes, pas une décision qui nous avantage, pas une décision pour notre intérêt, une décision qui est bénéfique au peuple de Dieu. Voyez-vous, une décision spirituelle, ce n'est pas facile. Là, voyez pour Aïe, le même problème. On se dit, ouais, c'est la même chose. Là, ils sont on fait une proportion, ben là, il y avait tant d'hommes, on était tant, oh là, ils sont ça, tac, tac. T'inquiète pas, Josué, j'ai réglé le problème. Catastrophe. catastrophe. Je vais vous donner un dernier exemple. C'est quelqu'un, c'est un pasteur avec qui je me suis converti. Il s'appelle Jean Lemercier, il est décédé, il est auprès du Seigneur. Voyez-vous ? Et là, c'est au niveau des décisions. Des décisions. On était dans une église à Paris, qui dépendait d'une autre, et ça ne marchait pas. Il y avait pas, c'est pas que ça ne marchait pas, en fait, c'est que ça ne se développait pas beaucoup. Ça stagnait. Et à un certain moment, le pasteur de la cour, ça s'appelait la cour des Noues, l'église mère, ils ont dit, on va arrêter cette église de Fondary, Paris-Fondary. Et donc, on va arrêter. C'était une décision qui pouvait paraître sage. Vous voyez, c'était une décision. Et Jean Lemercier, qui était pasteur adjoint, c'était plutôt un ancien qu'un pasteur. Et donc, un jour, en se rasant, je me rappelle de son témoignage, c'est bizarre, et ça fait, bon, c'est pas si vieux que ça, n'exagérons pas quand même. Voilà. Je me rappelle de son témoignage. Il a eu cette pensée, eh bien, de reprendre cette église. Vous voyez, qu'il voulait abandonner à l'époque, de la reprendre. Il a eu cette pensée. Voyez-vous ? Donc, il en a fait part aux frères. Et puis, bon, ils ont dit, en gros, bon, si tu veux te casser les dents, vas-y, en gros. Voyez-vous ? L'encouragement, là, ils l'ont encouragé. Vas-y. Vas-y, mon frère, tu verras qu'on avait raison. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, il travaillait en même temps. Il reçoit de son travail un papier qu'il attendait depuis longtemps, nommé directeur régional en province. Voyez. Et ça, s'il l'a reçu, c'est qu'il aspirait à le recevoir, hein. C'est qu'il l'avait demandé, c'est qu'il avait travaillé pour le faire. Voyez-vous ? Nommé, enfin, directeur régional, il était à la Transatlantique, ça n'existe plus aujourd'hui, à la Transatlantique, nommé directeur régional, mais régional, c'était pas Paris, comme son nom l'indique, c'était région, voyez-vous ? Et là, on aurait pu dire, ah Seigneur, enfin, merci, tu me bénis, c'est une grâce que tu m'accordes, c'est une grâce, voyez-vous ? Le frère, il a refusé ce poste pour s'occuper de l'Église. J'imagine que dans son entreprise, ils n'ont pas dû bien comprendre, parce qu'il y a des postes qu'on ne refuse pas. Et personne n'est indispensable. Si vous le refusez, ne vous inquiétez pas, un autre tout de suite prend la place. Voyez-vous, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de vacances dans là-dedans. Hein. Voyez-vous, il a refusé ce poste. C'est pour vous dire que faire un choix spirituel, eh bien, ce n'est pas quelque chose de simple. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Voyez-vous, faire un choix spirituel, c'est quelque chose de difficile. Nous avons un privilège. Un privilège, c'est de pouvoir consulter Dieu. Et c'est ça l'important pour nous. Pourquoi prendre le risque de prendre des décisions hasardeuses ? Ça, c'est une bonne question. On peut prendre des décisions hasardeuses, mais pourquoi prendre ce risque alors que nous avons l'opportunité, la possibilité, eh bien, d'avoir un conseil efficace, un conseil éclairé, mais pas un conseil humain, le conseil de Dieu, voyez-vous ? Pourquoi prendre le risque, eh bien, de prendre une décision hasardeuse ? Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, voyez-vous ? C'est ça le hasard, voyez-vous ? Alors que nous aurions la possibilité, eh bien, de consulter Dieu pour prendre la bonne décision. Pas pour prendre une décision, pour prendre la bonne décision. J'ouvre une parenthèse. La bonne décision, ce n'est pas toujours celle que nous souhaitons. C'est ça la difficulté. Parce qu'il y a des fois, on s'est fait son petit schéma dans la tête en se disant, ça se passera comme ça. Voilà, le prophète, il sortira, il m'imposera les mains, il y aura toute une... Voyez-vous ? Tac, 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 il viendra, il priera pour moi, voilà. Et puis, je serai guéri. Voyez-vous, on se fait son schéma, et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas toujours comme on l'a imaginé. Voyez-vous, on risque ça, on risque. Je vais vous montrer quelque chose, si je retrouve le passage. C'est 2 Chroniques 10. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Roboam, c'est le fils de Salomon. C'est lui qui va devenir roi, et c'est lui qui va diviser le peuple. C'est le schisme. C'est juste après Salomon, le royaume d'Israël va se séparer, les 10 tribus du nord, 2 tribus qu'on appelle les tribus de Juda, voilà. C'est ce qui va se passer par la faute, j'allais dire grâce, non, c'est par la faute du choix de Roboam. Mais notez la démarche de Roboam. C'est intéressant. Il avait l'exemple de son père, Salomon, de David, son grand-père. Il avait des écrits. Il avait un tas de choses. Parce que Salomon, quand même, écrit pas mal de choses. Il avait un enseignement, on dirait, il est issu d'un milieu chrétien. Voyez-vous, il a eu un bon enseignement. Il savait comment se comporter. Il connaissait ces choses. Sur les conseils, voyez-vous, Salomon, il en a donné quand même beaucoup, voyez-vous. Eh bien, Roboam, lui, vous savez ce qu'il fait? Il va consulter, non pas Dieu, mais les vieillards. C'est assez sage, humainement parlant. Parce qu'on peut se dire, s'ils ont de l'âge, bon, ils ont peut-être un peu plus de sagesse que la jeunesse, voyez-vous. Il va consulter les personnes un peu âgées qui ont de l'expérience, voilà. Et donc là, la réponse, ça ne lui plaît pas. Donc il s'est dit, je vais consulter l'Éternel. Eh bien non, je vais consulter mes copains, les jeunes de son âge. Les jeunes de son âge. Et là, le choix a été catastrophique. Catastrophique, voyez-vous. C'est très, très important de faire le bon choix. Le bon choix, c'est très important. Mais c'est aussi très, très difficile de faire le bon choix. Nous pouvons consulter l'Éternel, nous pouvons consulter Dieu et lui demander eh bien, de nous aider dans nos démarches. Et là, à ce moment-là, les directions, la vie sera différente. Je ne dis pas que si je prends un choix, eh bien, ça pourra bien mal se passer automatiquement si je prends un choix personnel. Je dis juste qu'il y a des probabilités. Ça peut bien tomber, ça peut mal tomber, parce que nous n'avons pas cette vision à long terme. Nous n'avons pas cette vision à long terme. Demain, on ne sait pas où on sera. Je ne sais pas où je serai. Et vous non plus, personne ne le sait, ça. Personne ne le sait. Mais regardez le privilège que nous avons d'appartenir à un Dieu qui connaît toutes choses, qui est tout-puissant, et lui qui sait ce qui va se passer demain, et qui est capable eh bien, d'influencer, de nous aider à faire les choix qu'il faut. Vous vous rendez compte de la différence? On supprime tout ce qui est hasardeux. C'est intéressant, le hasard, c'est quand même embêtant, voyez-vous. C'est quand même embêtant. Alors, je ne vous encourage pas, les gens du monde, ils disent « je touche du bois, je ne vois pas l'intérêt ». D'autres croisent les doigts. Je ne vois pas l'intérêt non plus. C'est pas très cohérent. Hein. Je sais pas. Très rationnel non plus. Enfin, voilà. Bon, c'est une méthode, mais enfin, je ne pense pas que ça marche. Enfin, je pense que même que ça ne marche pas du tout. Nous avons une possibilité. Nous prions Dieu. Nous consultons Dieu. Et ça, c'est quelque chose. Attendez que je tourne la page, c'est ça. Je vais citer un verset. C'est dans Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai ceux qui dévorent, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, et vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est Malachie qui écrit ça. Voyez-vous, Dieu s'engage. D'un côté, il nous demande d'être fidèles dans la dîme, dans les offrandes, il nous demande d'être fidèle, mais il nous demande aussi de compter sur lui et il s'engage. Parce que la grande question, c'est bien beau de consulter Dieu, mais Dieu répond-il ? Répond-il ? Dieu répond-il ? C'est ça la bonne question. Moi, quand je regarde la parole de Dieu, là, je m'aperçois que Dieu s'engage à répondre. Faites ça et vous verrez. Faites ça et vous verrez. Si je n'ouvre pour moi, pour vous, les écluses des cieux, si ça ne sera pas la bénédiction, il va plus loin. Il dit, ceux vos ennemis, moi je vais m'en occuper. Voyez-vous, les problèmes que vous rencontrez, je vais les régler. Voyez-vous, Dieu s'engage. Dieu s'engage. Ça signifie quoi ? Ça signifie que la bonne démarche, eh bien, c'est confronté à des difficultés, à des choix, à des problèmes, eh bien, de se placer devant Dieu et lui dire, Seigneur, je ne suis pas capable de faire les bons choix. Vous savez, je ne suis pas capable parce que moi, j'aurais tendance à vouloir faire ça, mais je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la bonne solution. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le bon choix. Mais je veux te demander, je veux juste te demander, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Voyez-vous, c'est ça. Seigneur, guide-moi, conduis-moi. Voyez-vous, et Dieu s'engage. Et Dieu s'engage, eh bien, à nous aider, à nous conduire. Dieu s'engage à s'occuper de nos ennemis. Je ne sais pas si vous avez des ennemis. Enfin, j'espère que non. Moi, je ne sais pas non plus. J'en ai peut-être, mais je l'ignore. Voyez-vous, Dieu s'engage. Dieu s'engage. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Dieu entend les prières. Dieu répond à la prière. Comme je vous le disais, ce n'est pas toujours évident que ce soit exactement comme nous le souhaitions, mais ce qui est évident, c'est que le choix de Dieu, ce sera le bon choix. Est-ce que vous trouvez naturel, eh bien, d'envoyer Paul prêcher vers les incirconcis et de garder Pierre pour les Juifs ? Moi, j'aurais fait l'inverse, compte tenu de la culture de Paul. Voyez-vous, j'aurais fait l'inverse. Et Dieu, lui, il a fait différemment les choix de Dieu. Mais jamais on sera capable de comprendre les choix de Dieu. Par contre, ce que l'on est capable de faire, c'est lorsqu'on a fait le bon choix avec le Seigneur, c'est de dire au Dieu, Seigneur, heureusement que j'ai suivi ton conseil. Heureusement que j'ai fait ce que tu m'as conseillé, ce que tu m'as dit, parce que sinon, ça se serait mal passé. Ça se serait mal passé. Je vais arrêter là. C'est quelque chose d'essentiel, parce que nos choix ont des conséquences, auront automatiquement des conséquences. Et nos yeux, eh bien, nous pleurerons sûrement, vous savez, quand on fait des choix en disant « Seigneur, je me suis planté ». Ça, c'est une expression de jeune. Je traduis en français « Seigneur, je me suis trompé ». Je me suis trompé, voyez-vous. Mais se tromper, ça pose des problèmes, parce qu'il faut toujours, on paye les conséquences. Mais par contre, combien de fois, et je l'ai expérimenté, je sais aussi que vous l'avez expérimenté, de dire « Seigneur, heureusement que je t'ai écouté dans telle ou telle chose, parce que là, j'aurais pas fait ça, moi. J'aurais pas fait ce choix-là. Mais heureusement que je t'ai écouté, parce que je m'aperçois que c'était là la meilleure chose, le meilleur choix, la meilleure décision. » Voyez-vous, nous avons un privilège extraordinaire, c'est de pouvoir consulter Dieu libre à chacun de le faire, de ne pas le faire. La liberté demeure à chacun, mais ne nous plaignons pas. Moi, je veux compter sur l'Éternel, je veux compter sur Dieu, je veux me tenir devant Dieu pour qu'il me conduise, pour qu'il me guide dans les choix, pour qu'il m'aide, parce que j'ai besoin de son aide. Je peux vous le dire aussi, vous avez besoin de son aide. Vous en avez besoin. Ne vivez pas médiocrement, mais vous pouvez vivre d'une manière formidable. Et la solution, c'est de nous attendre à Dieu, de le consulter, de le suivre. Ça sera peut-être incompréhensible. Vous savez, mon pasteur Jean Lemercier, quand il a dit à sa femme, je refuse ce poste, je ne suis pas convaincu qu'elle ait eu une réaction spirituelle. Mais tu te rends compte, mon chéri, tu aurais eu 500 euros de plus tous les mois. Ça aurait mis du beurre dans les épinards. Je ne suis pas convaincu que nous serons toujours compris par rapport aux décisions que nous prendrons, voyez-vous. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est de prendre la bonne décision. Et en final, on s'aperçoit, eh bien, qu'on a bien fait de prendre cette décision. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, parce que nous t'avons donné nos vies, mais toi, tu t'engages à en prendre soin, à nous aider, à les conduire. Nous voulons être fidèles. Nous voulons faire les choses que tu veux que nous fassions. Mais Seigneur, nous voulons compter sur toi, nous attendre à toi, Seigneur, et te dire encore, c'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi que nous avons besoin pour nos décisions, pour nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ton aide. Merci d'être avec nous. Merci, Seigneur. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire.